de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, pour l'édition mardi le 31 mars 2020, vous êtes avec moi Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, ce soir avec le journal aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques événements importants, entre autres, 10 Indonésiens traités à Hyderabad ont été guéris de Covid-19. Le roi Salman fournit un traitement gratuit aux patients de corona. Le porte-parole du président a expliqué les critères pour les clients qui peuvent obtenir un allègement de crédit. Une attaque des talibans tue 27 membres du personnel de sécurité afghan. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche encourage la production nationale de crevettes au milieu de Covid-19. La synergie des politiques est la clé de renforcer la résilience économique de l'Indonésie et la France retourne des touristes d'Indonésie. Chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Des Indonésiens traités à Hyderabad ont été guéris de Covid-19. Des citoyens indonésiens confirmés positifs pour Covid-19 ont maintenant été déclarés guéris par les autorités sanitaires de TB and Chest Hospital à Hyderabad, dans l'état de Telangana, en Inde. Les 10 citoyens indonésiens doivent subir un processus de quarantaine pendant les 14 prochains jours, jusqu'à ce que leur état de santé soit complètement revenu à la normale. Cela a été confirmé par l'autorité sanitaire de Telangana à l'ambassadeur d'Indonésie en Inde, à New Delhi. Répondant à cette nouvelle positive, l'ambassadeur d'Indonésie, Arto Suryodipuro, a exprimé lundi son appréciation au gouvernement indien, en particulier aux autorités sanitaires de l'État de Telangana, qui ont aidé et fourni des soins optimaux aux citoyens indonésiens du début de la période de quarantaine jusqu'à leur établissement. Communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie. Le roi Salman fournit un traitement gratuit aux patients de corona. Le ministre saoudien de la Santé, Dr Taufik bin Fawzan al-Rabia, a annoncé l'ordre du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud de fournir un traitement gratuit aux patients de corona. Il s'adresse à tous les résidents autochtones et illégaux qui n'ont pas de permis de séjour où la période de validité a expiré. Rapporté à spa.gov.sa, ils seront servis dans tous les établissements de santé publique et privée concernant toutes les questions relatives. Cette politique est entrée en vigueur après une conférence de presse tenue par le ministre de la Santé au siège de l'autorité saoudienne des produits alimentaires et pharmaceutiques à Riyad lundi 30 mars. Le porte-parole du président a expliqué que critère pour les clients de peuvent obtenir un allègement de crédit. Le porte-parole présidentiel Joko Widodo Fadjrul Rahman a déclaré que l'autorité de services financiers OJK a publié une politique d'allègement de crédit en tant que politique contracyclique sur l'impact de la propagation du COVID-19. Lundi, dans une déclaration écrite à Jakarta, Fadjrul a déclaré qu'il y avait plusieurs conditions pour que les débiteurs obtiennent un allègement de crédit. Ces conditions incluent, entre autres, les débiteurs affectés par COVID-19, dont les valeurs de crédit ou de crédit bail sont inférieures à 10 milliards de roupies. L'allègement de crédit est destiné aux travailleurs informels, aux travailleurs à revenus quotidiens, aux micro et aux petites entreprises. Une attaque des talibans tue 27 membres du personnel de sécurité afghan. Les talibans ont tué 27 membres des forces de sécurité afghanes lors de plusieurs attaques. Selon la police et les représentants du gouvernement lundi, lorsque les efforts de paix négociés par les États-Unis ont presque réussi. Les talibans et les États-Unis sont parvenus à un accord le mois dernier permettant aux États-Unis et à leurs alliés de retirer leurs troupes en échange d'une promesse des talibans de prévenir le terrorisme. Mais les efforts pour tenir des pourparlers ont été entravés par les débats sur l'échange des prisonniers et les équipes de négociation entre les gouvernements et les talibans. Dimanche, des groupes des talibans ont pris d'assaut le camp de hauts responsables de la police dans la province de Tahar, tuant 13 policiers et blessant de hauts responsables. Entre-temps, selon un porte-parole de la police, 13 combattants talibans ont été tués à Baghlan. Les talibans ont également perdu des membres des trois autres attaques. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche encourage la production nationale de crevettes au milieu de COVID-19. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche continue d'encourager la productivité de l'élevage comme la crevette Venom dans plusieurs régions au milieu de l'épidémie de COVID-19. C'est ce qu'a déclaré lundi le directeur général du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, aquaculture, Slamet Subjakto. Slamet a admis qu'il y avait préparé une feuille de route pour les 5 prochaines années qui contenait la stratégie du ministère des Affaires maritimes et de la pêche pour encourager la production nationale des crevettes. Selon lui, sa partie optimisera le terrain de l'étang à travers d'une approche basée sur la zone où l'aspect durabilité sera garanti. L'un des directeurs de l'élevage de crevettes, Dudi Hernawan, a déclaré que la production de crevettes est actuellement assez élevée, avec une productivité moyenne des étangs atteignant 28 tonnes par hectare. La synergie des politiques est la clé de renforcer la résilience économique de l'Indonésie. La synergie des politiques est à nouveau la clé pour continuer à renforcer la résilience économique de l'Indonésie, y compris en atténuant le risque de l'impact de la propagation du COVID-19 sur l'économie à court terme. Le gouvernement, la banque en Indonésie et les autorités concernées se sont engagées à continuer de renforcer les synergies politiques pour surveiller la dynamique de la propagation du COVID-19 et son impact sur l'économie indonésienne. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la Banque Indonésia, Peri Warjio, dans le livre du rapport sur l'économie indonésienne qui a été lancé lundi à Jakarta. Le lancement du livre sur le thème « Synergie, transformation et innovation vers une Indonésie avancée » a été réalisé numériquement pour minimiser le risque de propagation du COVID-19. La France retourne des touristes d'Indonésie. Le gouvernement français a affrété un avion pour rapatrier ses citoyens qui étaient des touristes d'Indonésie. En réponse à la propagation du coronavirus COVID-19, cette initiative a été menée par l'ambassade de France en Indonésie, compte tenu des milliers de touristes français n'ont pas pu rentrer dans leur pays en raison d'annulation de vols à cause de politiques de fermeture des frontières appliquées dans de nombreux pays. C'est ce qu'a déclaré lundi l'attaché de presse français en Indonésie, Dominique Roubert, à Antara. Le processus de rapatriement a commencé du vendredi au dimanche la semaine dernière de l'aéroport Ngurah Rai Bali Air, l'aéroport Soekarno-Hatta Jakarta, à l'aéroport Charles de Gaulle Paris. Charles Littard, c'est tout, le journal d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, veillez de ne pas retourner à la ville natale cette année. Avant le mois de Ramadan, Adelaide devient une culture de la nation indonésienne de rentrer à la ville natale ou mudik en indonésien. Cependant, en 2020, la situation est différente. Le mois de juin et l'Eid al-Fitr sont précédés de la pandémie du virus corona ou COVID-19. En Indonésie, plus d'un millier de personnes ont été testées positives pour COVID-19. Plus d'une centaine de personnes sont mortes de la maladie. Certains chefs régionaux ont appelé les résidents qui sont dans les grandes villes comme Jakarta et Surabaya à ne pas rentrer dans leur village cette année. L'appel a été lancé pour empêcher la transmission de COVID-19 dans le village. En fait, il y a des gouvernements locaux qui ferment l'accès à la région à ces résidents. Cependant, la réalité est que de nombreuses personnes sont retournées dans leur ville natale plus tôt. Lors d'une réunion limitée sur l'anticipation de mudik lebaran ou le retour à la ville natale avant lebaran via une diffusion en direct du compte YouTube du secrétariat présidentiel, lundi, le président Joko Widodo a déclaré qu'au cours des 8 derniers jours, il y avait 876 flottes de bus interprovinciales transportant environ 14 000 passagers des régions de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi ou Jabodetabek à Jawa Occidental, Jawa Central, Yogyakarta et Jawa Oriental. Cela n'a pas été calculé sur utilisant le transport en commun, par exemple les trains, les navires, le transport aérien et les voitures privées. Selon le président, le flux de retour dans la ville natale est en cause depuis l'application de l'intervention d'urgence à Jakarta le 20 mars 2020. Alors que la mise au point du gouvernement actuel est d'empêcher la propagation de COVID-19 en réduisant ou en limitant la circulation des personnes d'un endroit à un autre. Des appels à ne pas retourner dans leur ville natale ont été demandés par diverses parties comme le ministère des entreprises d'État, le conseil indonésien des ulémas MUI jusqu'au président et au vice-président. Maintenant, le président Joko Widodo demande au gouvernement régional d'interdire plus strict ses résidents de rentrer chez eux au village pour une sécurité mutuelle. Cependant, le président a également estimé que tant de résidents rentrant chez eux au village aujourd'hui n'était plus un facteur culturel, mais parce qu'ils étaient forcés. En général, les résidents rentrant chez eux au village de la région de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi en raison d'une baisse drastique des revenus qui ont été touchés par COVID-19. Un appel à rester à la maison réduit leurs revenus qui sont en moyenne de petits commerçants. Les petites communautés sont confrontées à un dilemme, rester là où ils gagnent leur vie sans rien pouvoir faire ou rentrer chez eux au village avec le risque de transmettre le virus corona dans le village. Le gouvernement n'a pas beaucoup de temps pour les aider. Il doit y avoir une assistance rapide pour qu'ils ne rentrent pas chez eux, mais leur vie est garantie là où ils gagnent leur vie. Pour ceux qui sont plus capables, le gouvernement espère de ne pas rentrer chez eux au village. Ne pas rentrer chez soi, c'est se protéger mutuellement. Les parents, les grands-parents du village sont susceptibles de contracter le virus corona. Si vous les aimez, le retour à la maison devait être reporté jusqu'à ce que l'épidémie de COVID-19 soit passée. Maintenant, ce qui est nécessaire est la conscience de soi pour mettre en œuvre rester à la maison ou la distanciation physique, bien sûr en tant que religieux, prière Dieu Tout-Puissant est tout aussi important pour que l'épidémie de COVID-19 passe bientôt. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 31 mars. Le 31 mars 1981, la fin du drame du détournement de l'avion de Waila Garuda, DC-9. Le vol de Garuda Indonesia de l'aéroport civil de Talang Betutu, Palembang, à l'aéroport de Polonia, Medan, ont été victimes d'un détournement d'avion le 28 mars 1981. L'avion a décollé de Jakarta à 8h du matin et a transité à Palembang. En vol, l'avion a été subitement détourné par cinq terroristes déguisés en passagers. Après avoir atterri temporairement pour faire le plein à l'aéroport de Penang en Malaisie, l'avion a finalement volé et a connu son point culminant à l'aéroport de Dong Muang de Bangkok, Thaïlande, le 31 mars. L'opération de libération a été effectuée par les troupes du groupe 1 du commandement des forces de Sandi Yuda, maintenant Kopassus. Le 31 mars 1991, la fin du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie est une alliance militaire des pays du bloc de l'Est d'Europe qui vise à s'organiser contre la menace éventuelle de l'alliance de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ou abrégé en OTAN. La formation du pacte de Varsovie a été déclenchée par l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN par la ratification de l'accord de Paris. Le pacte de Varsovie a été conclu par Nikita Khrushchev en 1955 et a été signé à Varsovie le 14 mai 1955. Ce pacte a été fin le 31 mars 1991 et officiellement mis fin à une réunion à Prague le 1er juillet 1991. Le 31 mars 2007, l'heure de la Terre ou Earth Hour est célébrée aujourd'hui. Earth Hour ou l'heure de la Terre est une activité mondiale organisée par le Fonds mondial pour la nature ou en anglais Worldwide Fund for Nature ou abrégé en WWF le dernier samedi de mars de chaque année. Cette activité a pris la forme de coupure de courant inutile dans la maison et le bureau pendant une heure, afin de sensibiliser à la nécessité de prendre des mesures concrètes pour faire face au changement climatique. L'activité initiée par le WWF et Leo Barnett s'est déroulée pour la première fois le 31 mars 2007. C'est l'histoire d'aujourd'hui.
Caraku menemukan dirimu tentang apa yang aku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie. Bonne écoute. Bonjour à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde. Ce soir, je vais vous présenter la rubrique Mon Indonésie, intitulée L'Indonésie assure le retour des Indonésiens bloqués en Ouzbékistan. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, l'Indonésie par l'intermédiaire de ses représentants et c'est toujours à protéger les citoyens indonésiens qui se trouvent à l'étranger, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19. Divers pays imposent des restrictions à l'entrée dans leur pays pour empêcher la propagation du COVID-19, y compris l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan a temporairement fermé la frontière et annulé les vols sortant et entrant dans son territoire à partir du 16 mars 2020. Cette politique a sûrement eu un impact sur 133 citoyens indonésiens qui se trouvaient en Ouzbékistan. Comme cité par la page kemlu.go, 26 mars, l'ambassade de la République d'Indonésie de Taksan a coordonné avec divers partis, y compris Ouzbékistan Airways, le ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan et le vice-premier ministre de l'Ouzbékistan pour assurer le retour des citoyens indonésiens le 22 mars 2020. Au cours du processus de rapatriement, l'ambassade d'Indonésie à Taksim s'est assurée de fournir une assistance et de s'assurer que tous les citoyens indonésiens étaient en bonne santé. Les citoyens indonésiens se composaient de 109 groupes d'étudiants et de 24 autres citoyens indonésiens. Ils étaient arrivés en Indonésie le 24 mars 2020. Tous les représentants de l'Indonésie dans le monde continueront de surveiller et de suivre l'évolution de COVID-19 et les conditions des citoyens indonésiens qui vivent sur le territoire du pays accrédité. Serge Olitar, c'était mon Indonésie.
Bisa disalami dalamnya hatiku tak bisa dimengerti dalamnya rasa tak bisa ku pahami harus ku yakini hati ini harus ku yakini cinta
Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers amis, c'était la deuxième chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers amis, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel en produisant la danse Todagu. Chers amis, du 26 février au 5 mars 2019, un festival appelé Festival de la plage Enagera a eu lieu. Tenu dans la vallée Savu, au pied du volcan Ebulobo, sous-district Maupongo, régence Nagekeo, Nusa Tenggara Est, le festival de la plage Enagera a été organisé dans le but de préserver et de maintenir les danses et la musique traditionnelle locale. Au cours du festival, 15 musiques et danses traditionnelles ont été présentées par des communautés locales et des étudiants de divers sous-districts en régence Nagekeo. L'une des danses est la danse Todagu. Nommée Todagu parce que cette danse utilise des instruments d'accompagnement sous forme de tambour, soit toda, et de bambou aur, soit gu, qui sont frappés dans le ton et le rythme, de manière à devenir une expression unifiée du mouvement et de la danse. La danse Todagu est une danse de victoire pour les hommes qui sont revenus à la guerre dans le passé. Alors, les hommes de Nagekeo, célébrant la victoire de la guerre, dansèrent avec la danse de Todagu accompagnée de musique de bambou. Actuellement, la danse Todagu est généralement pratiquée lors de la construction et de la restauration de maisons traditionnelles, soit Sao Waja, et lors de l'installation de grands piliers au centre du village. La danse Todagu est généralement exécutée par des hommes, car il s'agit d'une danse de victoire après la guerre. Tandis que spécifiquement pour les femmes, il y a la danse Tea Eku. La danse Tea Eku est une danse de femmes ou d'épouses destinée à accueillir les maris et les hommes qui reprennent la guerre avec la victoire. En dansant, les danseurs Todagu dansent à l'aide de lance, soit buja, et d'épée, soit topo, pour compenser les mouvements des pieds. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Voice of Indonesia.
hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers auditeurs, c'était la chanson de pop indonésienne. J'espère que vous l'aimez bien. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien. Une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler l'indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est cuaca, ou en français, le climat. Maintenant, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « cuaca » ou en français « climat ». Tony est dans la région du temple Prambanan avec un guide touristique. Il parle du climat.
Bagaimana cuaca di London sekarang?
Oh, sangat dingin dan sedang turun salju.
Oh, sedang musim dingin ya?
Iya, benar.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir cuaca. Cuaca, en français, climat. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Bagaimana cuaca di London sekarang? Bagaimana cuaca di London sekarang? En français, quel climat fait-il à Londres maintenant? Sangat dingin dan sedang turun salju. Sangat dingin dan sedang turun salju. En français, très froid et il neige. Oh, sedang musim dingin ya. Oh, sedang musim dingin ya. En français, ah, c'est l'hiver. Ya benar. Ya benar. En français, oui, c'est vrai. Sejuk. Sejuk. En français, frais. Cerah. Cerah. En français, brillant. Berawan. Berawan. En français, nuageux. Hujan. Hujan. En français, il pleut. Si vous voulez connaître la condition météorologique dans Lyon, par exemple à Londres, vous pouvez dire bagaimana cuaca di London sekarang? Bagaimana cuaca di London sekarang? En français, quel climat fait-il à Londres maintenant? Et si vous voulez connaître le climat d'aujourd'hui, demandez bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? En français, quel climat fait-il aujourd'hui? Vous pouvez répondre à cette question en mentionnant la climatisation, par exemple, panas, dingin, atau sejuk. Panas, dingin, atau sejuk. En français, chaud, froid ou frais. Ou en mentionnant les conditions météorologiques, comme par exemple cerah, berawan, hujan, dan turun salju. Cerah, berawan, hujan, dan turun salju. En français, clair, nuageux, pluvieux et neigeux. Les autres exemples, si vous sentez qu'il fait chaud, vous pouvez dire cuacanya panas. Cuacanya panas. En français, il fait chaud. Si le climat est froid, vous pouvez dire cuacanya dingin. Cuacanya dingin. En français, il fait froid. Si vous sentez qu'il fait très chaud, ajoutez le mot sekali. Je répète, sekali, après l'adjectif. Comme par exemple, cuacanya panas sekali. Cuacanya panas sekali. En français, il est très chaud. Ou cuacanya dingin sekali. Cuacanya dingin sekali. En français, il fait très froid. Bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? En français, quel climat fait-il aujourd'hui? Vous pouvez répondre à cette question en disant cuacanya cerah. Cuacanya cerah. En français, il fait beau. Bagaimana cuaca di Jakarta? Bagaimana cuaca di Jakarta? En français, quel climat fait-il à Jakarta? Vous pouvez répondre berawan dan mungkin akan hujan. Berawan dan mungkin akan hujan. En français, nuageux et peut pleuvoir. avant de terminer Apprendre l'Indonésien aujourd'hui, écoutons encore une fois l'exemple de la conversation en indonésien.
Bagaimana cuaca di London sekarang?
Oh, sangat dingin dan sedang turun salju.
Oh, sedang musim dingin ya?
Iya, benar.
Chers amis, c'est à la rubrique Apprendre l'Indonésien pour aujourd'hui. Merci à tous et à demain.
Chers auditeurs, c'était la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, The Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, nous allons vous présenter des informations sur la chanson malaise intitulée Cinta Hampa de Victor Hutabarat. Serviteur, la chanson Cinta Hampa a été créée par Akhalik. Cette chanson raconte le faux amour qui est comparé à l'eau dans des feuilles de tarot. L'eau dans les feuilles de tarot est facilement renversée lorsque les feuilles se balancent. De même, l'amour décrit dans les paroles de la chanson de Victor Hutabarat. L'amour est facilement perdu quand quelqu'un plus beau que son amant vient. Victor Hutabarat n'était pas la première personne à populariser cette chanson. La chanson Cinta Hampa a été popularisée pour la première fois dans les années 70 par le groupe musical Deloitte. Ensuite, par Victor Hutabarat, cette chanson est chantée à nouveau avec une version pas très différente, utilisant des arrangements de musique malaise. La chanson Cinta Hampa a été popularisée dans l'album Senandung Melayu lancé en 2005. Bon serviteur, voici donc Victor Hutabarat avec sa chanson intitulée Cinta Hampa. Bon écoute.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Pada
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, la suite d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain. Même heure et même fréquence. À bientôt.